Le chef du gouvernement israélien, Naftali Bennett, s'est exprimé cet après-midi à 15h devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. C'est un moment très important, c'est toujours l'occasion pour les grands leaders de ce monde d'exprimer leur politique, de s'adresser directement souvent à des adversaires ou à des alliés sur les enjeux les plus importants de leur nation. Et c'est la première fois qu'on entend Naftali Bennett se coller à cet exercice. Jusqu'à présent, évidemment, c'était Benjamin Netanyahou pendant 12 ans. On avait l'habitude des capacités d'orateur exceptionnelles de Benjamin Netanyahou, et c'est intéressant de voir comment son successeur se tire de cet exercice qui est difficile, puisque sous les yeux du monde entier, sous les yeux des plus grands leaders du monde. Donc je vous propose d'écouter Naftali Bennett, et je vais le traduire.
It's okay to disagree.
On peut, c'est bien, on peut être en désaccord. C'est normal que les gens pensent différemment. C'est même ok d'avoir des disputes. On peut débattre. C'est la base de la tradition juive. Je peux vous dire que c'est aussi l'un des secrets du succès de notre Startup Nation. Venez dans nos compagnies, dans nos sociétés, vous allez voir de quoi il en retourne. Le débat, c'est le pouvoir de l'innovation. Et nous, en Israël, nous pensons que même sur les médias sociaux, on peut débattre sans haine. Mais la deuxième grande maladie auquel nous nous sommes confrontés, après la haine, c'est le corona. Et nous sommes sur, on voit qu'on est en train de trouver de nouvelles découvertes, on a réussi à trouver des failles. On est tous engagés dans la lutte pour le savoir. Et Israël est sur le front et sur la première ligne de ce combat pour le savoir. Nous avons développé en Israël un modèle qui fait la fusion entre la sagesse et le pouvoir de la décision politique. Israël a trois bases de principes, trois principes. Un, le pays doit rester ouvert. On a tous payé un prix énorme, un prix économique, physique, émotionnel.
Just ask your kids.
Demandez à vos enfants pour avoir arrêté la vie en 2020.
But my friends,
mais mes amis,
to bring economies
pour amener nos économies de nouveau vers la prospérité, retourner les enfants à l'école et les parents de retour au travail, le confinement, les restrictions, les quarantaines ne sont pas le chemin. On ne peut pas rester là-dedans, dans cette idée, sur le long terme. Notre modèle, plutôt que d'enfermer les gens de manière passive, de manière dormante, le modèle appelle à leurs efforts. Ils peuvent faire partie de l'effort. Je vous donne un exemple. Nous avons demandé aux familles israéliennes de faire des tests de leurs enfants à la maison, de tous leurs enfants. On a fait ça il y a quelques semaines de manière à ce qu'on puisse laisser les écoles ouvertes. Et les écoles sont restées ouvertes. On a distribué des douzaines de ces tests aux parents. Ils peuvent être eux-mêmes, ils peuvent faire partie de ce combat. La deuxième principe qui nous a conduit, c'est de vacciner le plus tôt possible. Dès le début, Israël a été le premier pays à vacciner. Et nous devons rester en avance. En juillet, nous avons été les premiers à réaliser que les vaccins étaient en train de s'affaiblir. Et donc, ça nous a amené toujours dans la volonté de poursuivre ce combat. Mon gouvernement a décidé d'administrer une troisième dose, un rappel. C'était une décision difficile. Mais on était face à un choix. Ou bien ramener les Israéliens vers un nouveau confinement, ou bien rajouter un vaccin. On a choisi la deuxième solution. Israël a été pionnier dans la dose de rappel. Maintenant, deux mois après, je peux vous le dire que ça marche. Avec une troisième dose, vous êtes 7 fois plus protégé que si vous avez 2 doses. Et 40 fois plus protégé que s'il n'y avait aucun vaccin. Le rappel marche. Et comme un résultat de ça, nous avons passé cette période sans aucun confinement, sans aucun enfermement, ni de notre économie, ni de personne. Israël continue de grandir, le chômage diminue dans notre pays, et on va continuer avec la troisième dose de rappel. Troisième principe, il faut s'adapter, il faut bouger rapidement. Donc on a fait une task force, un groupe qui se rencontre tous les jours, qu'on appelle la task force, qui est là pour trouver des solutions tous les jours, prendre des décisions rapides, agir tout de suite, les appliquer tout de suite. Chaque jour est un nouveau jour, avec des nouvelles données, de nouvelles décisions. Quand quelque chose marche, on le garde. Quand quelque chose ne marche pas, on le laisse, on le jette et on avance. Diriger un pays durant une pandémie, ce n'est pas seulement une question de santé. C'est une question de trouver l'équilibre entre les différents aspects de la vie, tous ces aspects qui sont affectés par le corona, les jobs, l'emploi, l'éducation. Quand les docteurs sont des facteurs importants, mais ils ne peuvent pas être ceux qui dirigent tout le pays, toute la nation, il y a toutes les considérations à prendre. Et ça, c'est les leaders nationaux de tous les pays qui ont ce devoir. Il est dans notre pouvoir de donner à nos peuples les moyens, les outils pour défendre leur vie, pour protéger leur vie. Le Talmud dit, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il sauvait un monde entier. Et c'est ça qui nous a inspirés. Mes chers amis délégués, quand Israël se bat pour faire bien, on ne peut pas perdre à l'esprit une seule minute ce qui se passe dans notre voisinage. Israël est entouré par le Hezbollah, le djihad islamique, le Hamas et les milices chiites sur nos frontières. Ces groupes de terroristes veulent dominer le Proche-Orient et répandre l'islam radical à travers le monde. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils veulent tous détruire mon pays. Et ils sont tous soutenus par l'Iran. Ils ont leur argent par l'Iran. Ils ont leur entraînement par l'Iran. Ils ont leurs armes par l'Iran. L'Iran, le grand objectif de l'Iran, que ce soit bien clair pour tout le monde, ouvrez vos yeux. L'Iran veut dominer la région et veut le faire sous un parapluie nucléaire. Pour les trois dernières décennies, l'Iran a répandu la mort pays après pays. Le Liban, l'Irak, la Syrie, le Yémen, Gaza. Qu'est-ce que ont tous ces endroits en commun? Ils sont tous en morceaux. Des citoyens qui ont faim, qui souffrent, qui ont des économies qui s'effondrent. Comme la série La cerise sur le gâteau, l'Iran lui-même est en train de s'effondrer. Tous les régimes touchés par l'Iran échouent. Et le terrorisme iranien, soutenu par l'Iran, lui, par contre, est en pleine forme. Je vais vous dire des choses. Juste cette année, l'Iran a créé une unité de terroristes avec des moyens qui peuvent attaquer n'importe quelle place, à n'importe quel moment. Ils ont essayé d'attaquer dans les airs avec cette unité, avec cette nouvelle force. Ça s'appelle le Shahed 136, qui peut même attaquer des cibles américaines en Irak, qui peut attaquer des bateaux. Ils ont même tué des Britanniques, des Romains, en mer. Ils peuvent attaquer en Irak, en Syrie, au Liban, avec des centaines et peut-être même des milliers de ces miliciens. Vous pouvez l'ignorer, mais l'expérience nous montre que ce qui commence au Proche-Orient ne s'arrête pas là-bas. Voilà, donc c'est, vous entendez actuellement le discours prononcé cet après-midi à l'ONU, à New York, par le chef du gouvernement israélien, Naftali Bennett. Je vous propose de faire une toute petite pause et on retourne à ce discours qui a été prononcé aujourd'hui à 15h, que je continuerai de traduire. À tout de suite. On retrouve donc la deuxième partie du discours prononcé par le chef du gouvernement israélien, Naftali Bennett, devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York cet après-midi.
Distinguished delegates,
mes chers amis délégués, durant les dernières années, l'Iran a mis en place une unité qui a décidé la mort de milliers d'opposants. Cette commission de mort était composée de 4 personnes. Ibrahim Raisi, le nouveau président d'Iran, était l'un de ces 4.
Raisi
a aussi supervisé la mort d'enfants iraniens. Son surnom et le boucher de Téhéran, parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Il a égorgé son propre peuple. L'un des témoins de ce massacre a dit dans ses mémoires que lorsque Raisi terminait ses meurtres, il exécutait les gens et seulement quelques minutes après, il s'assoyait et il mangeait des gâteaux à la crème. Il célébrait la mort de son propre peuple en dévorant des gâteaux à la crème. Et maintenant, ce monsieur Raisi est le nouveau président iranien. Voilà avec qui on a affaire. Durant les dernières années, Israël a fait un travail considérable dans son effort nucléaire, dans ses capacités de production, dans son enrichissement. Le programme nucléaire iranien est à un point critique. Toutes les lignes rouges ont été passées. Tout a été ignoré. On peut montrer que ça ne sert à rien de penser de manière positive, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Que l'Iran continue et ils s'en tirent très bien. Ils sabotent les inspections internationales et ils s'en sortent très bien. Ils ont augmenté le niveau d'enrichissement qui est juste avant le développement d'un matériel militaire et ils s'en sortent très bien. Les preuves ont clairement montré les intentions iraniennes pour avoir l'arme nucléaire. Leur site de recherche à Turkuzaban, Téhéran, Adibad, tout cela est ignoré. Le programme nucléaire iranien est arrivé à un point critique, à un point cardinal. Et notre tolérance aussi. Les mots n'arrêtent pas les centrifugeuses. Il y a ceux dans le monde qui ont vu la recherche iranienne et la volonté d'obtenir l'arme nucléaire. Certains laissent faire ça et peut-être que certains sont fatigués d'en entendre parler. Israël n'a pas ce privilège d'être fatigué. On n'a pas le droit d'être fatigué. Et d'ailleurs, on ne va pas l'être. Israël ne permettra pas à l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Je veux vous dire quelque chose. L'Iran est beaucoup plus faible, beaucoup plus vulnérable qu'il l'apparaît. Son économie se noie. Ce régime est totalement divorcé de la génération des jeunes. Son gouvernement corrompu n'arrive même pas à donner de l'eau à de larges parties de sa population. Ils ne peuvent pas boire, pas d'eau. Plus ils sont faibles, plus ils sont extrémistes pour cacher leur faiblesse. Et je dis à tout le monde, si on décide de s'y mettre sérieusement et qu'on décide de les arrêter, si on utilise nos ressources, on peut éviter. On peut vaincre. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Mes amis, tout n'est pas noir au Proche-Orient. Au côté de ce que je viens de dire, il y a aussi des lumières. Israël a aussi fait la paix avec des pays arabes et musulmans il y a 2 ans. Les accords de paix historiques après les accords qui étaient il y a 27 ans avec l'Égypte et avec la Jordanie. Et maintenant, récemment, avec les accords d'Abraham, on a normalisé nos relations avec les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Maroc. Et il y a encore d'autres qui vont venir, d'autres accords. De plus en plus de nations comprennent les valeurs israéliennes et sa position unique dans le monde. Les États-Unis d'Amérique sont un très ancien allié, un ami, comme on l'a vu encore il y a seulement quelques jours seulement au Congrès. À côté de nos anciens amis, on a de nouveaux amis. Et c'est là, par exemple, on le voit avec la défaite de la conférence raciste et antisémite de la conférence de Durban. Cette conférence, qui était supposée une conférence contre le racisme, est devenue, au fur et à mesure des années, une assemblée de racistes contre le peuple juif et contre Israël. Eh bien, le monde en a eu marre. Et moi, je veux remercier les 38 pays, 38, qui ont choisi la vérité face aux mensonges et ont refusé de se rendre à cette conférence. Et ces pays qui ont choisi de participer, qui ont refusé de participer à cette farce. Mais je peux vous dire que attaquer Israël ne fait pas de vous des gens moralement supérieurs. Combattre la seule démocratie du Moyen-Orient ne vous fait pas de vous un grand. Adapter des clichés sur Israël plutôt que de regarder les faits les plus basiques.
That's just plain lazy.
En fait, c'est juste de la paresse.
My friends, every member state in
Mes amis, chaque pays membre de cette assemblée a le choix. Ce n'est pas un choix politique, c'est un choix moral. Le choix entre l'obscurité et la lumière. L'obscurité qui poursuit les adversaires politiques, qui assassine, comme on le sait, ou la lumière, qui poursuit la liberté, la prospérité, les opportunités. Durant les 73 dernières années, l'État d'Israël, le peuple d'Israël, a atteint tellement de choses, a cru en tellement de choses, a eu la foi en tellement de choses, et a aujourd'hui une confiance complète que les meilleures années sont devant nous. Israël est une nation de grand espoir, une nation qui vient de l'héritage de la Torah, qui croit en la vie, une nation qui a un esprit incassable. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité.
The lighthouse among the stormy seas.
La lumière face aux ténèbres.
Stand strong.
Soyez fort.
And her light.
Et votre lumière va briller de manière plus brillante que jamais. Merci. Voilà, c'était le discours prononcé par Naftali Bennett cet après-midi devant l'Assemblée générale de l'ONU. Un discours très important puisque c'est la première fois que le chef du gouvernement israélien s'exprime devant une assemblée internationale. Donc on attendait en fait très concrètement de savoir s'il en avait les épaules, comment il succéderait à Benjamin Netanyahu, que dirait-il ? Et donc on a vu que c'est un discours qui a balayé différents sujets depuis le corona, la coexistence, le nucléaire iranien évidemment, les accords de paix et l'alliance avec les démocraties. Voilà, donc ce discours avait lieu cet après-midi devant l'Assemblée générale de l'ONU, discours de Naftali Bennett. Je termine cette séance d'information, cette édition, en vous souhaitant à toutes et à tous de bonnes fêtes. Chag Sameach, et puisque on peut encore le faire, alors je ne bouderai pas mon plaisir de vous dire Shana Tova.